Les grands titres de ce jeudi 13 juillet. Le président américain Donald Trump défend son fils malgré des emails le liant à un proche du Kremlin. Séjour de fête nationale à Paris demain, en France en fait, et Donald Trump sera présent aux côtés d'Emmanuel Macron pour la parade militaire. Et l'Australie a presque garanti un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, puisque la France a retiré sa candidature. Le président américain Donald Trump a dit qu'il ne reprochait pas à son fils d'avoir rencontré un proche du Kremlin dans le but d'obtenir des informations incriminantes sur Hillary Clinton. Ces révélations ont émergé après la publication d'emails de Donald Trump Jr. Les démocrates affirment qu'il pourrait s'agir de preuves comme quoi l'équipe de Donald Trump a pactisé avec la Russie, ce que Donald Trump Jr. nie. Le président a dit à Reuters qu'il ne savait pas jusqu'à ce qu'il y a quelques jours que cette rencontre avait eu lieu et qu'il ne s'agissait qu'une décision prise dans le feu de l'action. Le nouveau chef du FBI nommé par Donald Trump a promis d'être impartial. Christopher Wray entre en poste alors que le scandale à propos des emails du fils de Donald Trump bat son plein. Il a dit qu'il refuserait de prêter allégeance à Donald Trump et démissionnerait si le président lui demandait de faire quelque chose d'illégal. Il a ajouté qu'il n'était pas d'accord avec le président qui dit que l'enquête sur la possible intervention russe durant l'élection est une chasse aux sorcières.
If I am given the honor of leading this agency, I will never allow the FBI's work to be driven by anything other than the facts, the law, and the impartial pursuit of justice. Period. Full stop.
Christopher Wray, nouveau directeur du FBI. On vous en parlait la semaine dernière, Donald Trump assistera à la fête nationale du 14 juillet à Paris. La relation entre le président américain et le président français Emmanuel Macron n'est pas au beau fixe après une poignée de mains inconfortables et le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Arim Lipold nous dit de quoi aura l'air cette rencontre entre les deux leaders.
Accueil officiel à l'hôtel des Invalides, tête à tête avec le président Emmanuel Macron et puis dîner au restaurant Jules Verne au deuxième étage de la Tour Eiffel en présence des épouses. Oui, c'est un peu carte postale reconnaissant à l'Élysée, mais c'est pour montrer que nous savons bien recevoir nos invités. Une attention que Donald Trump, sous pression à Washington à cause de l'affaire russe, sera appréciée et les images montreront le chef de la Maison Blanche en train d'assister au défilé militaire en présence de 300 soldats américains seront sans doute les bienvenus. La dernière fois qu'un président des États-Unis est monté sur la tribune d'honneur, c'était en 1989 lorsque François Mitterrand avait invité George Bush père. Au-delà du symbolique, la visite sera aussi l'occasion d'aborder les sujets qui fâchent, comme la sortie américaine de l'accord de Paris sur le climat. Mais pas question d'accentuer trop les divergences entre les deux pays. Emmanuel Macron et Donald Trump feront tout pour afficher leur entente dans la lutte contre le terrorisme. Avec un petit bémol, toutefois, la France souhaite que les États-Unis contribuent plus au financement de la force anti-djihadiste G5 Sahel en Afrique.
Arim Lipold pour Radio France Internationale. Toujours en France, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que 12 500 places d'hébergement pour les réfugiés et demandeurs d'asile seront créées d'ici 2019. Cette mesure fait partie d'un plan du gouvernement qui veut améliorer ses mesures d'accueil pour les réfugiés. Un reportage de Sylvie Coffey.
La France n'est pas à la hauteur dans sa gestion des migrations, notamment concernant la situation des réfugiés relevant du droit d'asile. Nous devons être exemplaires, a dit le Premier ministre.
Notre objectif est de réduire et de réduire considérablement les délais d'une procédure de demande d'asile depuis le moment où elle est enregistrée jusqu'au moment où elle est totalement acquise ou rejetée au terme des recours qui peuvent être introduits. Ça passe par une diminution du délai d'enregistrement des demandes d'asile. Nous devrons, pour permettre la réduction de ce délai d'enregistrement de la demande d'asile, réformer les plateformes de premier accueil et renforcer les capacités d'accueil des guichets uniques.
Concrètement, Édouard Philippe prévoit un délai de traitement en 6 mois contre une année actuellement. Autre annonce, la création de milliers de places d'hébergement.
Plus 4000 places en 2018, plus 3500 places en 2019. Au total, nous aurons donc une progression d'environ 10% du nombre de places disponibles sur 2 ans.
Le Premier ministre veut aussi plus de fermeté et plus d'efficacité en rendant effectives les reconduites à la frontière des déboutés de l'asile.
Sylvie Coffey pour RFI. Après 2 ans de campagne, il semblerait que l'Australie va finalement avoir un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, puisque la France a retiré sa candidature. Il restera ainsi 2 sièges pour l'Australie et l'Espagne. La chef de Human Rights Watch Australia, Eileen Person, a dit que c'était une bonne opportunité, mais que l'Australie devait mériter ce siège.
Australia has made a strong case about why it should sit there. Certainly, there are areas in Australia's own human rights record where it needs to do more. I think the Human Rights Council does play a valuable role, but I think it's been undermined, particularly in recent years, by countries like Cuba, Egypt, Saudi Arabia, countries that massively violate human rights, having a seat at that council.
L'Assemblée générale de l'ONU doit approuver les pays choisis par un vote en octobre. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull devrait être de retour au pays ce soir après sa tournée européenne. Il s'est rendu en Allemagne pour le sommet du G20, puis en France et au Royaume-Uni où il vient de rencontrer la reine Elisabeth II. Il a aussi rencontré Angela Merkel, Emmanuel Macron et Theresa May. Un député libéral avertit que des Australiens pourraient mourir en raison de la hausse des prix de l'électricité liée aux énergies renouvelables. Craig Kelly s'est dit inquiet des récents sondages comme quoi un Australien sur 4 ne prévoyait pas chauffer sa demeure cet hiver en raison des prix élevés. Il a dit à Sky News que nous devions faire plus pour réduire le prix de la facture d'électricité.
One in four Australians can't afford to heat their house.
Exactly.
This is here we are, one of the richest energy countries in the world. We should be an energy superpower. With the coal that we have, the gas, the uranium that we have in this nation, we should have the lowest electricity costs in the world. And we used to have them.
Le vice-premier ministre Barnaby Joyce a dit que le gouvernement ne céderait pas à la pression des États pour ce qu'il qualifie d'objectifs énergétiques trop ambitieux. Le ministre de l'Énergie doit rencontrer demain ses homologues des États pour discuter de la réponse du gouvernement au rapport Finkel. Ce rapport sur l'énergie fait 50 recommandations pour améliorer les prix et la fiabilité. Le gouvernement Turnbull supporte 49 des 50 points, mais n'a pas pris de décision pour ce qui est des objectifs d'énergie propre. Le premier ministre du Victoria a affirmé que les États pourraient décider d'aller de l'avant sans la coopération du gouvernement fédéral. Mais ça ne fait pas plaisir à Barnaby Joyce. On l'écoute sur Sky News.
We know the effect will be that the poorer person, Mr. and Mrs. Smith, in 123 Jane Street, in the back street of a regional town in the suburbs, will not be able to afford their power bill. And we are not going to do that to them. We're going to make sure that we look after the people who are doing it tough. It's all very well for, and I'm one of them, a politician who's probably doing it pretty well, pretty comfortable, doesn't really have to worry about their power bill, to inflict on other people something they can't afford.
Le vice-premier ministre Barnaby Joyce. Et un mot de sport pour terminer le journal. Roger Federer est toujours dans la course pour gagner son 8e Wimbledon après une victoire en quart de finale contre Milos Raonic, 6-4, 6-2, 7-6 et 7-4. Il jouera en demi-finale demain contre Tomáš Berdych. Le joueur tchèque est passé en demi-finale lorsque Novak Djokovic a déclaré forfait lors de leur match en raison d'une blessure. Djokovic s'est dit déçu de voir le match finir ainsi.
Injuries are part of this sport, unfortunately. Professional tennis is getting very physical, you know, in the last couple of years. So it's not easy to kind of play on the highest level throughout the entire season, and then, you know, be able to do that over and over again every season, and then, you know, stay healthy.
Andy Murray, lui aussi, hors de la compétition en raison d'une blessure à la hanche. On aura plus de sport avec Jean-Noël Ducasse juste après notre coup d'œil météo. À Perth, aujourd'hui, un maximum de 20 degrés. Adélaïde, 18. Melbourne, 15. Hobart et Canberra, 14. Wollongong, Sydney et Newcastle, 18 degrés. Brisbane, 21. Cairns, 26. Et à Darwin, 33 degrés. On rappelle des grands titres de ce jeudi 13 juillet. Le président américain Donald Trump défend son fils malgré des emails le liant à un proche du Kremlin. Séjour de fête nationale en France demain et Donald Trump sera présent aux côtés d'Emmanuel Macron pour la parade militaire. Et l'Australie est presque garantie un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU puisque la France a retiré sa candidature.
Vous aimez le programme en français ?
continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench